Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Avant de commencer cet épisode, je voudrais préciser que nous allons parler d'autisme au singulier ou au pluriel et ou de neuroatypie. Je ne suis pas concerné par le sujet directement. Le témoignage que vous allez entendre est tout simplement celui d'une mère qui exprime, avec ses mots, son vécu, son ressenti. Pourquoi est-ce que je précise cela aussi? C'est parce que je comprends que le sujet puisse être sensible, notamment pour les personnes concernées. Donc, excusez-nous d'avance si le choix des mots n'est pas le meilleur, s'il n'est pas le plus adapté. Voilà, on vous essaie juste de donner de la visibilité à ce sujet avec nos moyens et nos connaissances. Merci pour votre bienveillance. Dans cet épisode, je reçois Daisy. Vous la connaissez peut-être, car elle est illustratrice et qu'elle a réalisé déjà différents albums jeunesse, notamment des albums plutôt inclusifs. Et vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux avec son pseudo Daisy Dessine. C'est d'ailleurs sur Instagram que j'ai découvert certains de ses dessins que j'ai trouvé très touchants, de par leur simplicité et leur émotion sur le quotidien de sa famille, avec notamment un de ses enfants qui est autiste. Nous allons donc parler du parcours pour arriver à ce diagnostic. Nous allons parler du regard des autres, nous allons parler de la fatigue parentale, mais pas que, nous allons aussi parler de l'amour et de son livre à venir sur le sujet. La première question que je lui ai posée, c'est tout simplement de se présenter, elle, sa vie personnelle, pour un petit peu mieux la connaître et la situer. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Eh ben, je m'appelle toujours Daisy dans ma vie personnelle, c'est pas un pseudo, donc voilà, je suis une maman de 35, je cherche, on commence à chercher pour passer un certain âge, quelques doutes, 35 ans. Je suis mariée et j'ai deux jolis petits garçons, un grand qui s'appelle, un aîné qui s'appelle Sacha et qui a 8 ans et demi, et qui est donc en CE2, et un petit dernier qui s'appelle Elliot, alias Lily, et qui a 4 ans et qui est diagnostiqué depuis un an déjà maintenant autiste.
D'accord, il est diagnostiqué autiste. Alors moi, je suis toujours un peu perdu dans ces termes parce que je vois passer des trucs de TSA, TDAH. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, précisément de ça?
Alors aujourd'hui, normalement, la nomenclature veut qu'on parle de, quand on parle d'autisme, veut qu'on parle de TSA, donc ça, trouble du spectre autistique. Après, moi, quand j'en parle librement de l'autisme, je préfère utiliser le mot autisme parce que phonétiquement, il est plus facile à dire que TSA ou trouble du spectre autistique. Et puis parce que les gens ne sont pas toujours au courant et n'ont pas toujours ces notions un peu plus complexes des mots et des adjectifs. Et je, en tout cas, je trouve qu'il n'y a rien de dévalorisant à parler d'autisme. Et comme je l'avais mentionné, j'aurais tendance à dire que j'utiliserais le mot autisme avec en tout cas au pluriel, à la fin, pour remplacer trouble du spectre autistique, ben je dirais autisme au pluriel.
Oui, donc c'est ça, c'est que l'autisme, c'est un spectre et qu'en effet, quand on n'est pas concerné directement, c'est un petit peu difficile. Moi, je t'avoue que personnellement, c'est vrai que je ne connais pas les différences entre les différents spectres qui peuvent exister et que je peux comprendre que ça puisse être important pour des personnes concernées. Ouais. Mais je te remercie en tout cas d'en parler de manière aussi générale. Comme je le disais en introduction, ce qui m'a beaucoup touché dans ton travail vis-à-vis de cette situation avec ton fils Elliot, c'est la façon dont tu présentes sur des planches de BD d'une façon très simple, très épurée, mais dans lesquelles ressortent beaucoup d'émotions. En tout cas, ça m'en fait ressentir beaucoup. Un quotidien qui semble être à la fois comme tout le monde et à la fois très différent. Comment est-ce que tu pourrais expliquer cette nuance?
C'est compliqué, je ne sais pas si j'arriverai à l'expliquer parce que moi-même, je suis encore un peu perdue et je découvre encore beaucoup de choses puisque l'autisme n'est pas une maladie, hein, c'est une particularité de fonctionnement cérébrale. Et donc, du coup, je le découvre encore beaucoup. Donc, en fait, ces petites planches de BD, elles me permettent d'y voir plus clair. Parce que justement, toute la difficulté avec Elliot réside déjà dans le fait qu'il est 4 ans et que c'est un petit garçon de 4 ans. Et un petit garçon de 4 ans, ben, il est comme tous les autres petits garçons de 4 ans. Sauf que parfois, dans ses comportements, dans ses attitudes, vient se rajouter une petite pincée d'un petit truc qui est très subtil et qu'il faut arriver à identifier. Et ce qui est délicat, c'est d'arriver à faire la part des choses entre un comportement d'un petit garçon de 4 ans et un comportement d'un petit garçon de 4 ans qui a en plus un trouble qui vient rendre plus compliqué certaines situations au quotidien. Et en fait, ces petites planches de BD, elles me permettent à moi d'identifier plus facilement la différence entre ces comportements typiques ou atypiques, et puis surtout de donner à comprendre aux autres justement cette finesse et cette petite corde et cette petite ficelle qui sépare deux mondes en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez fin et assez délicat et assez sensible, parce qu'en fait c'est pas binaire, c'est pas autiste, pas autiste, c'est un petit garçon avec des particularités. Et on marche sur la corde, et puis des fois on bascule plus sur un versant que sur l'autre, et toute la difficulté réside dans justement comment éduquer ce petit garçon en identifiant ce qui peut être référé à ses troubles et ce qui est de l'ordre d'une éducation d'un enfant, ouais, encore jouer sur les mots, je ne sais pas comment dire, lambda, non pas lambda, typique.
Typique ?
Ouais, typique.
Et dans le concret, parce que concrètement, comment est-ce que tu as des exemples de situations où tu t'es dit, voilà, là c'est son atypisme qui s'exprime, et qu'est-ce que ça donne dans une situation tout à fait concrète ?
Concrètement, alors attends, si je devais choisir un exemple, par exemple, aller au restaurant, tu vois, on va prendre ou boire un coup. Il fait beau, on imagine que les restos sont ouverts, voilà, et super, on va aller boire un coup en terrasse, génial, pas de masque, rien du tout. Avec un enfant de 4 ans, faire un restaurant, on ne part pas sur 3 heures à table, on est d'accord, c'est pour le commun des mortels, on prend de quoi l'occuper, on lui explique qu'on va manger, que on va peut-être pas essayer, on va essayer de ne pas partir en courant, mais qu'on va faire au mieux pour que tout le monde passe un bon moment. Donc voilà, la particularité en plus avec Elliot, au-delà du fait que pour lui aussi rester assis quand t'as 4 ans au restaurant, c'est pas forcément évident et pas très intéressant, eh bien à lui va se rajouter le fait que on arrive dans un lieu qu'il ne connaît pas, et tout ce qui est nouveau est très anxiogène pour lui. Donc du coup il y a beaucoup de préparation en amont pour lui expliquer où est-ce qu'on va, comment ça va être, qu'est-ce qu'on va manger, voilà, vraiment anticiper au maximum pour qu'il puisse se projeter et imaginer. Ensuite, on va amener des objets et des accessoires qui vont lui permettre de se rassurer des choses qu'il connaît. Et en plus de ça, au restaurant, y a des bruits, il y a des visages qu'il ne connaît pas et qui, en plus, il a du mal à interpréter. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont graviter en plus autour de lui, en plus du fait que pour un petit garçon de 4 ans, rester assis au restaurant, c'est compliqué. Voilà. Donc, voilà une situation à peu près typique. De notre atypisme familial. Voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu les difficultés au quotidien.
Et une fois sur place, comment ça se passe ? Est-ce que si jamais, par exemple, il y a cette anxiété qui s'exprime, comment est-ce que tu gères ? Comment est-ce que vous gérez ? Parce que vous êtes deux.
Oui, on est deux, bien sûr. On est à 200% dans le... Je ne saurais pas comment te dire. On est vigilant, dans l'hypervigilance en fait. On est dans l'hypervigilance de tout ce qui pourrait venir encore plus le perturber. On anticipe en prévenant souvent, avant je ne le faisais pas, mais maintenant je le fais, on essaye d'y aller au début du service, parce que comme ça on sait qu'il n'y aura pas trop d'attente. On prévient que si possible, parce qu'on va lui commander des frites, parce qu'il adore les frites, donc on ne va pas aller s'amuser à lui faire prendre autre chose, autant qu'il passe un bon moment. On demande à ce que les frites, dès qu'elles sont prêtes, il les amène, pas besoin de faire patienter les autres. Enfin bon. Et on est hyper vigilant à tout ce qui pourrait le faire dégoupiller, entre guillemets. Donc on le rassure constamment en lui disant « mais les frites vont arriver, tu vas manger tes frites. On est hyper vigilant dans tout ce qui pourrait nous permettre de lui montrer quelque chose qui l'intéresserait. Oh tiens, regarde, il y a ça. Et si on lisait les lettres sur le menu? Tu vois, on est dans cette hyper vigilance constante qui fait que bah, forcément, on n'est pas au resto comme on aimerait l'être. Mais en même temps, bah, on passe un bon moment quand même en famille. Et notre aîné, eh ben, il est aussi content d'aller au restaurant, même si bah, ça ne se passe pas comme pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est de l'hypervigilance, en fait.
Tu parles de dégoupiller?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe quand il dégoupille?
Uch, bah, il hurle. Il hurle. Elliot, on a une chance dans tout ça. Alors, Elliot, il s'enfuit pas. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui... les parents, c'est très compliqué d'aller se promener parce que l'enfant va s'enfuir parce qu'il y a beaucoup trop de stimuli au niveau de la lumière, au niveau des sons, et il ne sait plus où donner de la tête. Du coup, il part en courant, il se met en danger. C'est pas le cas d'Eliott. Donc ça, c'est assez rassurant, du coup. Et il n'est pas non plus violent, ni envers lui-même, ni envers les autres. Parce que c'est pareil, il y a certains enfants qui réagissent différemment aux hyperstimuli. Ils vont se frapper, ils vont se taper dans des objets, ils vont être hyper violents. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est des hurlements. Des hurlements à se rouler par terre et des hurlements qu'on a beaucoup de mal à faire cesser. Donc ça, en extérieur, c'est très, très difficile à gérer. Encore plus depuis que Elliot grandit, parce qu'un enfant de 2 ans qui fait une crise, on en voit. Mais quand tu commences à grandir, les autres... Et le regard des autres l'interprète assez vite et le classifie assez vite dans un enfant mal élevé, turbulent, qui fait des colères. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, il a une jauge. Et cette jauge, elle se remplit à Elliot quand on est dans des situations qu'il ne connaît pas. Et quand il y a quelque chose qui peut venir faire remplir la jauge d'un coup, ou quand où elle se remplit petit à petit, puis nous, on n'a pas bien dosé, parce qu'on la connaît cette jauge, on sait remarquer les signes, et bien là, ça explose. Le bouchon, c'est une cocotte minute et ça explose. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est s'isoler pour lui permettre de se retrouver, le rassurer. Mais généralement, on part, on rentre à la maison dans ces moments-là, ouais.
Et tu parles du regard des autres, comment ça se passe, Alors, j'ai deux questions pour le coup sur le regard des autres, c'est comment est-ce que ça peut s'exprimer dans l'attitude des gens, est-ce qu'ils fixent, est-ce qu'ils sont empathiques, est-ce qu'ils réagissent, ou bien, alors tu parlais d'enfants mal élevés, donc est-ce que ce sont des choses qu'on t'a déjà exprimées, et aussi dans un second temps, comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de ce regard quand ça arrive?
Bah, c'est hyper dur, j'ai eu des réflexions, mais dans un autre contexte, je t'expliquerai après, les gens ne parlent pas. Mais les gens regardent avec insistance et ils n'ont pas besoin de parler, tu vois dans leurs yeux. Tu peux très vite interpréter les regards, à la différence d'Eliott qui, lui, ne comprend pas tout ce qui est du non-verbal. Nous, on se le prend de plein fouet. C'est parfois pire que des mots. Donc, on a des regards très insistants. Je me souviens d'une fois où Eliott... faisait une crise à la sortie de l'école de son frère. On allait chercher Sacha à la sortie d'école et c'était à la fin d'année scolaire de l'année dernière. Et avec le Covid, la sortie se faisait plus au même endroit. Et en fonction de l'heure où t'arrivais, il y avait un battement de 2 minutes. Ben, des fois, je le récupérais en haut, des fois, je le récupérais en bas. Et ça, c'était jamais pareil. Donc, pour Elliot, c'était très compliqué. Et un jour, Elliot s'est mis à hurler, à hurler, à hurler, et j'arrivais pas à le contenir. Et Sacha sortait pas, et je me disais, mon Dieu, je vais pas m'en sortir. Et je voyais les gens qui commençaient à nous regarder. Et il y a une maman qui attendait son garçon, qui s'est mis à côté et qui s'est bouché les oreilles en me regardant, les yeux froncés. Et ça a été terrible. Ça a été terrible, ah ouais. terrible. Je me suis dit, ok, tu es en train de me faire comprendre que tu subis les cris, mais à quel moment tu n'as pas d'empathie en fait? Parce que du coup, moi, tu te mets à ma place, comment je le vis là? Parce que là, il y a 40 personnes qui me regardent et qui se disent, elle n'arrive pas à gérer son petit garçon. Sauf qu'en fait, vous ne faites pas l'effort de vous poser des questions, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très, très difficile. Après, il y a eu une fois où des gens ont fait des réflexions, c'est à la caisse du supermarché. J'essaye peu d'aller au supermarché avec Elliot, déjà bon, à cause du Covid, tout ça, mais il y a des fois, je n'ai pas trop le choix. Et on a une carte qui nous permet de passer en priorité, parce qu'en fonction de comment Elliot se sent, faire la queue, c'est plus ou moins délicat. Je l'utilise vraiment quand je sens que c'est pas possible. Mais sinon, j'essaye de l'utiliser le moins possible, cette carte, parce que pour moi, il faut qu'il apprenne à patienter. Ce serait trop facile de dégainer et de lui faire passer les étapes, tu vois, sans l'aider. Donc, une fois, Elliot dégoupillait complet dans le caddie, il hurlait. Et donc, du coup, j'ai demandé aux gens devant, j'ai sorti la carte et j'ai dit, est-ce qu'on peut passer devant? Et là, les gens, il y en a deux, trois qui ont dit, non, mais ça va, il n'est pas handicapé, il file les cartes n'importe comment, moi aussi, je suis pressée. Et, qu'est-ce que tu veux répondre? Tu vois, et puis répondre, c'est une perte de temps. Puis pendant ce temps, moi, il hurle, en fait. Donc, c'est pas grave, poussez-vous, je passe. Et puis, tant pis, quoi. Voilà, c'est des situations, elles sont pas quotidiennes, mais elles sont quand même très récurrentes, ouais. Ça, c'est très difficile parce que lui, le voit pas, il s'en rend pas compte. Mais nous, on se le prend de plein fouet, quoi. Après, je voudrais pas parler pour mon mari. Je crois que lui a beaucoup plus de mal, d'après ce qu'il m'a dit, avec le regard des autres. Lui, s'il se prend une réflexion ou il sent un regard insistant, il va tout de suite répondre et de manière assez violente. Parce que je pense qu'on le reçoit pas différemment. Moi, je reste concentrée sur Elliot et lui est vraiment sur la défensive. Ça l'affecte énormément. Donc, il réagit différemment, ouais.
Oui, Sam, en tant que, sans rentrer dans le cliché, je m'autorise à penser que qu'en tant qu'homme et en tant que père, on a, par rapport aux éducations qu'on a pu recevoir, on a aussi tendance plus facilement à réagir en termes de réactions violentes et agressives quand on se sent agressé. Donc en effet, je peux me projeter sur la situation. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient, dans ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est quelque chose qui revient souvent, ce sujet de... Il a l'air normal entre guillemets, et donc pourquoi est-ce qu'on devrait faire ceci ou faire cela pour vous aider, alors que j'ai envie de te dire, tu parles de manque d'empathie, c'est vrai que c'est un gros sujet. En tout cas, je te remercie d'exprimer ce qu'on peut ressentir dans ces cas-là. Je ne peux qu'imaginer la difficulté et même la détresse sûrement par moment de ces situations. Voilà, j'espère que ça aidera les gens qui nous écoutent à comprendre ce qui peut se passer et comment est-ce qu'on peut potentiellement aussi réagir. Et j'ai même envie de dire que autisme ou pas autisme, ça peut être chouette de pas se juger entre gens et notamment entre parents.
Ouais, qu'on parle d'autisme ou pas d'autisme. Ouais. La réaction qu'on a quand on voit d'autres parents dans des situations délicates avec leur enfant, effectivement, c'est l'autisme n'a rien à voir là-dedans, en fait, quoi. Mais
c'est
tu
ça,
vois, j'ai fait un dessin là-dessus. Et des fois, je me dis que si mon enfant avait un handicap visible, clairement, un handicap physique, tu vois, qu'il soit en fauteuil, où j'avais fait une illustration en parlant du pied beau, mais j'aurais pu mettre n'importe quel handicap physique visible. Et bien, des fois, je me dis que les regards seraient beaucoup plus empathiques, tu vois. Ça peut être dur comme réflexion, hein, il ne faut pas que ça soit mal reçu, mais concrètement, je me dis que si ça se voyait, eh ben, les gens réagiraient différemment. Vraiment.
Bah, tu sais, ce que tu dis là, moi, c'est quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans le commerce pendant très longtemps, pendant 15 ans. Et je me rappelle que dans la dernière entreprise dans laquelle j'étais, il y avait une formation justement sur le handicap et sur les situations, on va dire, de neuroatypisme. Et que justement, il y avait une grosse alerte sur le fait que dans le cadre de personnes neuroatypiques, il peut se produire des comportements inattendus. Alors que rien sur la personne ne permet de dire et d'exprimer, enfin en tout cas de se dire qu'il peut se passer quelque chose. C'est vrai que, et c'est quelque chose que j'ai vécu notamment dans les files d'attente, puisque c'était un grand magasin, dans les files d'attente, c'est vrai qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, et qu'on voit un comportement inattendu, si on se pose la question et qu'on ose poser la question, parce qu'il faut aussi oser la poser, la question,
totalement.
Et ben tout à coup, ça permet de décanter et de se dire « Ok, on va faire autrement, on va faire différemment. » Et surtout que j'ai remarqué que, là je parle de personnes adultes et autonomes, même les personnes adultes et autonomes, ces fameuses cartes pour passer devant, ben, elles n'osent pas forcément les sortir, notamment quand il y a du monde dans les files d'attente. Parce qu'en plus, bien sûr qu'il y a des réactions qui sont... Il y a des gens qui sont sans réaction, des gens qui disent « Ok », et il y a des gens qui disent « Non mais attendez, vous n'êtes pas... Pourquoi vous avez une carte pour passer devant? Vous n'avez rien. » Alors que si. Et c'est vrai que, moi, tu vois, dans mon parcours pro, j'ai aussi connu des gens qui avaient des problèmes. Alors, je ne vais pas faire le parallèle entre l'autisme et la santé mentale, ce sont deux choses différentes, mais juste qu'il y avait un problème de santé mentale et que donc ils ne se voyaient pas. Et tu vois, dans les aménagements professionnels, j'étais confronté au même problème en tant que responsable de devoir... expliquer aux gens que non, ça se voit pas, mais il se passe quelque chose, et si on prend des décisions, c'est pas pour rien. Donc c'est vrai que réveiller l'empathie comme ça, c'est pas forcément évident. Et la question que je voulais te poser aussi par rapport à cette situation de l'autisme, parce que j'ai cru comprendre que le parcours du diagnostic, c'est vraiment un parcours extrêmement difficile. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Ouais, alors nous pour le coup, on fait partie des gens qui ont beaucoup de chance sur justement le parcours du diagnostic, mais j'échange beaucoup avec d'autres parents qui vivent la même chose que nous, via des groupes, via même des gens à rencontrer comme ça, et en fonction déjà des régions et des départements, l'accès au rendez-vous est très compliqué. C'est pas parce que tu habites une grande ville que tu vas avoir plus facilement un rendez-vous. En plus, ça n'a rien à voir. Nous, on habite dans le Cantal, un département rural, et en fait, on a eu un diagnostic assez rapide parce que c'était le bon moment aussi. Il y avait une plateforme de diagnostic précoce qui a ouvert, et le diagnostic précoce de l'autisme est vraiment aujourd'hui une chose essentielle pour nos enfants atypiques parce que ça permet de les prendre en charge très tôt et du coup de mettre plein de choses en œuvre pour les aider plus tôt, justement. Et donc, du coup, cette plateforme ouvrant, ben, elle avait plein de places. Donc, on a eu des rendez-vous hyper vite. On a fait tous les bilans, parce que du coup, pour diagnostiquer l'autisme, il ne s'agit pas d'un seul rendez-vous avec un pédopsie. Il faut des bilans d'orthophoniste, des bilans de psychomotricien, des bilans, des tests en tout genre, des questionnaires. Donc, nous, on a eu, ça s'est passé très vite. Et en plus de ça, au moment du diagnostic, on nous a très vite proposé une prise en charge qui était le top du top pour Elliot. Je t'expliquerai du coup après, si tu veux, comment ça se passe pour lui aujourd'hui.
Avec plaisir.
Mais voilà, mais il y a beaucoup de parents qui déjà vont attendre. Il y a ce qu'on appelle les CRA, les centres ressources autisme, si je ne me trompe pas, parce que du coup, je ne les connais pas, je ne suis pas passée par eux, qui attendent, donc qui téléphonent pour un rendez-vous et qui l'ont 2 ans plus tard.
Ah ouais.
Pendant 2 ans. T'as pas de réponse. Ton enfant, il n'est pas reconnu, du coup, au niveau de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, du coup, il n'a pas de prise en charge. Il n'a pas d'aide. Et le peu que tu peux faire, ben, tu payes toute ta poche. Et on va dire que c'est très compliqué. Voilà, financièrement, on a la chance, pour le coup, d'habiter dans un pays, il faut le reconnaître, où on peut être aidé de ce côté-là, parce que sinon, c'est pas possible financièrement. Et il y a aussi... moi, je sais qu'on avait contacté l'hôpital de jour qui s'occupe des diagnostics. Et en fait, en un an, je les ai contactés peut-être 5 ou 6 fois. Ils ne m'avaient jamais rappelé. Donc voilà, ouais, parcours du combattant dans le diagnostic, mais aussi parcours du combattant après, dans la prise en charge, en fait. Parce que et là, on peut partir sur l'école inclusive et tout ça, mais en fait, c'est un combat éternel, pour que nos enfants... soit accepté à l'école, qu'il soit accompagné à l'école. C'est un combat terrible pour avoir des rendez-vous, pour qu'ils puissent avoir un suivi orthophoniste, psychomote, ergothérapie, tout ce qu'il faut. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais nous, on a énormément de chance, du coup. Elliot est scolarisé dans ce qu'on appelle une UEMA. C'est une unité d'enseignement maternel autisme, donc spécialisée dans l'autisme. Et en fait, c'est des classes, il y en a... Si les chiffres sont bons, je crois qu'actuellement, ça a été lancé en 2014 avec le plan autisme du gouvernement. Et ces classes-là ont ouvert à ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près, grand maximum 200 classes, maximum 7 élèves par classe. Donc, ça fait peu de petits enfants autistes quand même qui peuvent y avoir accès. Et dans ces classes-là, ces classes-là sont au sein d'écoles publiques. Et dans ces classes-là, en fait, ton enfant, eh ben, il a toute une équipe d'éducateurs qui est vraiment à 100% derrière lui pour le stimuler. Et l'objectif de cette classe, c'est de permettre à l'enfant, après, de rejoindre un parcours standard, dans des classes standards. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'inclusion. Et tout en les accompagnant le mieux possible, et surtout de manière complètement holistique, tu vois, avec il y a tout ce qu'il faut dans la prise en charge. J'ai pas de rendez-vous à l'extérieur. Elliot, il va à l'école, il a tout sur place. Et ça, c'est génial. En plus, dans le village, on a double chance. Vraiment, si on avait dû gagner, on aurait eu moins de chances de gagner au loto. Donc, c'est plus, moins. Enfin, bon, voilà, c'est improbable d'avoir ça, quoi. C'est très rare. Très rare.
Oui, ça a l'air en effet très rare. Et pour le coup, donc il va dans une école où il est dans une classe spécifique.
Ouais, voilà, il a sept petits copains. Ils sont combien? Alors, il y a deux éducateurs, des AMP, aides médico-psychologiques, qui sont deux aussi, donc ils sont quatre. Il a le psychomotricien qui intervient, l'orthophoniste. Cette classe est supervisée par le CESAD, donc une organisation qui après s'occupe de toute la partie neuro, psycho, tout ça. Et surtout, elle est aussi supervisée par l'éducation nationale. Donc, en fait, même s'il est dans une classe différente, il est au sein du système de l'éducation nationale. Bon, là on ne parle pas d'IEF, là, pour le coup, mais voilà. Mais du coup, il va tous les matins, il va aussi dans sa classe de maternelle, on va encore choisir les mots, standard. Voilà. Donc, il va, des fois, il est dans sa petite classe avec ses petits copains et ses éducateurs, mais l'objectif, c'est de l'inclure de plus en plus dans sa classe standard de maternelle. Et voilà, et donc, du coup, il bascule de l'un à l'autre en étant super bien entouré. Et puis surtout, en fait, toute l'école est sensibilisée à ses enfants extraordinaires, puisque du coup, il y a cette classe au sein de l'école. Donc, toute l'école est. Pour eux, c'est des enfants qui ont juste une classe différente, mais qui côtoient à la cantine, qui côtoient. Ça, c'est génial.
Ça a l'air en effet génial. Tu citais l'IEF, donc l'instruction en famille. C'est vrai que, bon, donc moi, c'est un circuit que je connais bien, l'instruction en famille. Par rapport aux récits nombreux de parents d'enfants autistes que je peux avoir et que je reçois concernant l'instruction en famille, clairement, ta situation a l'air idyllique, presque. Enfin,
Dans la
idyllique,
prise en
dans
charge.
le cadre de l'accompagnement
Tu
d'un
peux le dire.
enfant autiste. Et c'est vrai que les récits d'inclusion tels que tu nous le donnes, c'est pas le cas, ou en tout cas, c'est très très rare par rapport à l'ensemble hein, du territoire et des élèves concernés. Il y a quand même plus de 12 millions d'enfants scolarisés en France. Donc en effet, 200 établissements, ça fait
De
peu.
cette place, pour le coup, oui.
Ça fait peu, même si en effet l'école se veut en développement de son inclusion et des moyens qui y sont donnés, ça reste en effet des cas très isolés.
Et puis
Et
ça a ses limites.
ça a ses limites, et c'est vrai que il y a d'autres options, dont l'instruction en famille, mais c'est un autre sujet. En tout cas, moi je suis quand même content de savoir que ces classes-là existent. Je tiens aussi à souligner le fait, parce que j'ai d'autres récits, où vraiment il y a aussi des profs qui font l'effort, alors qu'il n'y a pas forcément de moyens de s'instruire sur le sujet, d'accompagner au mieux, et qui sont d'une très très grande bienveillance envers les enfants et les familles. Donc je tiens aussi à souligner leur travail, parce que ce sont vraiment des initiatives individuelles. Donc ça me semble important. Et c'est vrai que ce parcours scolaire et le parcours des rendez-vous, c'est quelque chose qui revient souvent comme étant extrêmement
Entraînant,
anxiogène pour le parent,
ouais.
contraignant,
Écoute.
et écoutez, ouais, écoutez, tout à fait.
Mais tu vois, l'IEF, si, quand même, on peut rebondir vite fait là-dessus, même si du coup, c'est un sujet que je ne connais pas, même si pour autant, j'aurais envie de te dire que par la force des choses, on le fait aussi, du coup, parce que Elliot, il faut le stimuler en permanence. Donc, du coup, voilà. Mais il y a énormément de parents qui sont dans la même situation que nous et qui sont en IEF par contrainte, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, parce que leurs enfants peuvent être scolarisés. Moi, je connais des parents, leur enfant est scolarisé 2 heures, 3 fois par semaine. Parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il n'y a personne pour accompagner. Et les parents sont du coup contraints de passer en IEF. Et ils font comme ils peuvent avec les ressources qu'on peut trouver sur Internet. Mais l'éducation de nos enfants, extraordinaire, elle est primordiale pour nous parents. Donc, quand on a la chance d'avoir accès, comme moi, à cette prise en charge, ok. Mais pendant un an, moi, je me suis retrouvée toute seule à la maison avec Elliot. Il n'y avait aucun mode de garde ni rien. Et ben, j'ai fait de l'IEF. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc, du coup, par contrainte. Mais en fait, ce n'était même pas une contrainte. C'était normal, tu vois. C'était d'essayer de lui apprendre des choses.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est ce qu'on appelle dans le circuit l'instruction famille subie, en fait, pour le coup.
D'accord, je ne savais pas que ça existait, bon. Ce terme-là.
Si, ça existe. Hein, l'instruction famille peut être subie parce que ce n'est pas forcément le choix du parent. Ouais. Hein, sauf que l'environnement, notamment scolaire, ouais, ne donne pas les options suffisantes par rapport à l'enfant tel qu'il est. Et c'est un vrai choix. Et là, puisqu'on enregistre pendant que il y a encore des discussions en cours, hein, les associations d'autisme sont sur les rangs, hein, justement, pour surtout que cette liberté reste possible et surtout très accessible, parce que pour fermer ensuite la parenthèse de l'instruction en famille, ce qui avait été évoqué par le gouvernement, c'est-à-dire que l'enfant serait scolarisé en école publique le temps du diagnostic, clairement les assos ont fait une levée de bouclier monstre en expliquant, c'est là où d'ailleurs j'ai découvert ce parcours qui peut être extrêmement long, et en expliquant que c'était vraiment de la souffrance quotidienne sinon, okay, et que c'était pas possible. Et donc il faut préserver, et c'est vrai que ce qui nous relie tous et toutes sur ce sujet, c'est l'amour qu'on porte à nos enfants et à leur bien-être. Et que peu importe que les situations dans lesquelles on est, c'est justement réussir à avoir les options de choix qui permettent d'accompagner nos enfants tout en se respectant soi, parce que c'est quand même pas facile, clairement. Et je pense qu'en effet, tu parlais de groupes de parole, de groupes d'échange. Je pense que ça m'a l'air essentiel, comme sur plein d'autres sujets, mais ça m'a l'air essentiel de pouvoir en parler. Il y a une question que je me pose quand même tout de suite. Quand on parle des gens qui sont proches de la personne qui est autiste, c'est là je pense à ton premier fils, à Sacha. Comment ça se passe pour lui d'avoir un frère avec cette particularité?
Ben, ça a été compliqué pendant toute la période du diagnostic, c'est-à-dire que c'était là où on était on a traversé une des périodes les plus compliquées de notre vie, parce qu'en fait on n'avait pas de mots sur nos mots, tu vois. On ne savait pas ce qui se passait, même si, quand même, on n'a pas été surpris, tu vois. Mais on n'avait pas de diagnostic. On n'avait pas de visibilité sur l'avenir. On n'avait aucun moyen de garde. L'école, on avait tenté, hein, l'école standard, c'était pas possible. Elliot, il s'asseyait sur le tapis, il le roulait. Ben, voilà, tu te dis, je ne vais pas laisser mon enfant comme ça. Et Elliot terrible, oui, terrible. Enfin, il n'était pas bien, quoi, en fait. Il n'y avait rien qui allait pour lui et autour de lui. Donc, du coup, il était dans un état catastrophique. Il hurlait, tout était crise, tout était... Donc là, ça a été très compliqué pour Sacha, parce que du coup, on était happé par Elliot, par la force des choses, et on n'était pas trop deux pour arriver à faire en sorte qu'il se sente un peu mieux, sans avoir trop les cartes en main, sans avoir les outils. Donc forcément, Sacha, et en plus, vu qu'il est plus grand, plus autonome, c'était délicat de ne pas glisser dans cette fenêtre en se disant, mais c'est bon, il se débrouille tout seul. Ouais, il se débrouille tout seul, mais enfin, il a 8 ans en fait aussi. Donc
il a 8 ans,
ouais. Tu vois, donc ok, il est autonome, ok, il est grand, et c'est facile de dire à un enfant de 8 ans, mais enfin, t'es grand, tu peux comprendre. Ben ouais, il peut comprendre, mais c'est pas pour autant qu'il veut comprendre, en fait. Tu vois, ça a été très très compliqué, parce qu'on tombait dans une éducation qu'on n'avait pas envisagée. on tombait dans des choses qu'on n'avait pas du tout imaginé aborder avec lui. Donc, ça a été très compliqué. Moi, j'ai énormément culpabilisé d'être moins disponible pour lui, parce que quand j'étais un peu plus disponible, j'étais épuisée, éreintée, parce que je vivais avec Elliot. Donc, du coup, je n'avais pas forcément la motivation. J'étais à fleur de peau. Voilà, donc ça a été très compliqué. Et puis, bon, petit à petit, avec la prise en charge d'Eliott, Elliot s'est beaucoup calmé, pas plus beaucoup de crises. On en a, mais ça reste sporadique, donc c'est facilement gérable, même si on est toujours sur le qui-vive. Du coup, petit à petit, à force d'en parler avec Sacha, il a compris. Il a compris qu'il y avait quelque chose de différent avec son petit frère. Et surtout, je lui ai autorisé, enfin, je lui ai... Il a fallu que je m'autorise, moi aussi, d'abord à me dire... Ben, c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est pas ce qu'on avait choisi, mais c'est comme ça. Et on va faire les choses comme ça et on fera du mieux qu'on peut. Et du coup, ça m'a permis de me dire, il a peut-être aussi besoin et le droit de dire, fais chier, tu vois. C'est pas, voilà, j'avais pas du tout envisagé les choses comme ça. Et ben, ça a beaucoup libéré un petit peu la parole et nos échanges. Même si aujourd'hui, des fois, son petit frère, il le gonfle, ils ont quand même toujours été très fusionnels. Ils s'entendent très bien. Et puis, petit à petit, le temps passant, Sacha se rend de plus en plus compte des différences qu'il peut y avoir entre son frère et d'autres enfants. Mais je mets toujours... c'est très important pour moi de lui dire... tu vois, par exemple, il n'y a pas si longtemps, il me disait « Le petit voisin, il a un an de moins qu'Eliott, il parle vachement bien. » Eliott, il parle, mais ça reste compliqué, voilà. Et il me dit oh, « Mais t'as vu comment il parle? Il parle trop bien par rapport à Eliott. Il est en avance. » Je lui dis « Non, il n'est pas en avance, en fait. C'est normal de parler comme ça à 3 ans, mais ton petit frère, tu sais, il a des difficultés pour parler. » Mais au lieu de s'arrêter à ça, je tiens toujours à rajouter « Mais tu sais, il te parle, il vient te demander de jouer avec lui, il est réceptif à toi, il te dit « Je t'aime », il te fait des câlins. » Il a toujours passé sur quelque chose de positif et voilà, mettre, c'est important. Pour tout le monde, de « ok, c'est dur, mais en fait, ça va, il y a des choses chouettes quand même, et voilà, on essaye de passer là-dessus. » Mais tu sais ça, il a fallu un sacré chemin, hein, parce que, en gros, il faut choisir de plus le subir, mais de le vivre, et de lui donner la direction qu'on veut, plutôt que de se laisser diriger par ça. Ça, c'est très long, et c'est l'éducation, c'est... Dans ce contexte-là, c'est tout le temps changeant, en fait. C'est pas du tout comme on l'avait imaginé, quoi.
Et justement, tu l'imaginais comment? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ce que tu avais imaginé, en fait?
Ben...
C'est l'accompagnement, c'est le cadre, c'est la bienveillance,
ouais.
C'est...
Ouais, je pense et j'espère qu'on a toujours essayé d'être bienveillant avec Sacha en amont. Puis du coup, ils ont 4 ans et demi d'écart, hein. Donc, on était... toujours hyper investi à lui faire découvrir des choses, à faire des choses, à l'écouter. La communication, pour moi, c'est essentiel. Donc, l'aider à grandir tout en lui faisant bien comprendre qu'il avait le droit de dire des choses, de ressentir des choses, que tout ça, c'était légitime. Sauf que pendant un temps, on s'est retrouvés à étouffer tout ça, à plus avoir le temps de faire tout ce qu'on faisait avec lui, à plus avoir le temps de l'écouter, tout comme nous, on ne s'écoutait pas. Et du coup, quand on a réussi à remettre un petit peu d'ordre dans notre vie de famille, ben ça, ces choses-là, elles ont été exacerbées, tu vois. C'était devenu encore plus essentiel de permettre d'exister, pas que comme une famille en tant qu'individu. On avait chacun nos ressentis. C'était important qu'il puisse, Sacha, se sentir le droit de dire des choses. Mais c'était aussi important qu'il puisse ressentir aussi et comprendre ce que nous, on pouvait ressentir. Donc, il y a vraiment un échange. Et après, on est encore plus vigilant sur tout ce qui est des violences éducatives ordinaires, tu vois, sur ce genre de choses, parce qu'en fait, le profil d'Eliott fait qu'il peut vite être dans du mimétisme. Donc, du coup, on est encore plus hyper vigilant dans la manière dont on communique entre nous, parce que Eliott pourrait prendre ça comme un comportement à adopter. Tu vois, donc ça c'est encore plus poussé, tu vois. Parce que je ne sais pas si on était vigilant là-dessus avant Elliot, parce que de base, on n'est pas des gens violents, on est des gens qui se parlent, qui discutent. Mais on a beaucoup plus investi ce sujet-là avec Elliot. Ouais.
Donc pour le coup, en fait, vous avez porté une réflexion plus poussée sur l'aspect de violence dite éducative ordinaire, c'est
Ouais.
ça, par
Ouais.
rapport à Elliot, d'accord.
Ouais. Parce que au-delà du fait qu'on sait que ces méthodes-là peuvent vraiment nuire à nos enfants, mais nous, en plus, il y a ce côté où, pour le coup, Elliot pourrait vraiment les prendre comme un comportement normal à adopter. Donc, du coup, dit non. Donc, voilà. Et on joue pas à faire semblant de, je sais pas moi, de fâcher ou de mettre une fessée à une poupée, tu vois. Non, on fait pas ça. Encore moins, on fait surtout pas ça. On essaye de faire du mimétisme parce qu'il faut lui apprendre aussi certaines choses de cette manière-là, mais du coup, on est hyper vigilant sur la manière dont on le fait, quoi.
Ça fait plusieurs fois que tu utilises ce mot hyper vigilant. Je
Ouais.
voudrais venir dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, notamment quand tu as parlé du restaurant et du moment qui doit être un moment de détente quand même en famille. C'est vraiment quelque chose qui a l'air de revenir et surtout quelque chose qui a l'air d'être permanent. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette hyper vigilance permanente? Et j'aimerais aussi savoir dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une hyperfatigue qui va avec?
Ouais, là, tu arrives sur des trucs sensibles parce qu'effectivement, cette hypervigilance, je pense que c'est moi. Pareil, je vais pas parler pour Mathieu parce qu'il a, ça serait intéressant et j'aimerais bien avoir un peu plus son point de vue de ce côté-là. Bon, par la force des choses, c'est moi qui suis beaucoup plus au contact des enfants. Donc, du coup, c'est moi qui gère forcément plus le quotidien. Et je suis hyper vigilante parce qu'une crise à gérer, c'est très compliqué. Donc, je préfère faire tout en amont pour que ces crises, elles n'arrivent pas. Parce que sinon, c'est difficile pour Sacha, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour Elliot, c'est difficile pour Mathieu. Donc, cette hyper vigilance, c'est la manière dont je décrirais mon quotidien, clairement. C'est comme ça que je vis, du matin au soir. Je fais attention à tout, tout le temps. Et effectivement, cette hypervigilance entraîne une hyperfatigue morale, clairement. Parce que quand tu n'as pas de crise, ben, tu passes ton temps à faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc, en fait, tu n'es jamais sorti de ça. Tu n'es jamais en dehors de ça. Tu as tout le temps le nez dedans. Mais en même temps, il n'y a pas le choix, j'ai envie de te dire. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un équilibre. Cette façon de vivre, on ne l'a pas choisie. Et pour autant, j'imagine que je devrais pouvoir arriver à être un peu moins hyper vigilante, parce que je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure des méthodes. L'évitement, tu vois, l'évitement, c'est pas, ça marche un temps, mais ce n'est pas toujours bénéfique. Je ne saurais pas quoi te dire de plus parce que j'ai le nez dedans, parce que c'est comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas, en tant que mère, à lâcher un peu plus. Tu vois, j'arrive pas. C'est comme ça que je nous ai sortis de ce quotidien chaotique. Et encore, je dis nous et j'aime pas parce que c'est comme s'il y avait que moi et que je gérais tout ça. Mais c'est un rôle que je me suis imposé et dont on parle avec mon mari. C'est comme ça qu'en fait, je pense, j'arrive pas à me laisser abattre. Tu vois, je me suroccupe, je surprotège, je pense, un peu trop. Donc, je suis pas si certaine que ce soit le bon comportement, mais pour le moment, c'est celui dont j'arrive pas à me défaire, tu vois.
Moi, si j'ai tendance à penser que c'est le comportement qui est le tien, qui visiblement te permet de te maintenir à toi, dans une situation, de te maintenir à flot, je dirais. Donc, c'est important, même si ça a l'air de générer énormément de fatigue physique et morale. Moi, quand tu en parles, le seul, je vais te dire en toute transparence, la première chose que je me suis dit, c'est OK, mais quand tu es dans le contrôle de l'évitement permanent, tu dois ressentir un tel sentiment d'échec quand la crise arrive quand même, tu vois. C'est ce moment-là où je me demande, enfin, je me demande, est-ce que tu ressens un sentiment d'échec quand la crise arrive malgré tout, tu vois? Le truc que tu n'as pas vu venir, quoi. Est-ce que ça va pas rajouter, tu vois un...
Non, pas tant, parce que du coup, en fait, elles ont vachement diminué. Donc, du coup, vu que j'en ai pas beaucoup, du coup, je me dis, si j'en ai pas beaucoup, est-ce que c'est parce que je suis hyper vigilante? Est-ce que c'est grâce à ça, tu vois?
Donc, ouais, ouais, ouais.
Je mords la queue, quoi. J'arrive pas encore à avoir du recul par rapport à ça. Par rapport, je pense que c'est pas la meilleure des méthodes, mais je pense que c'est celle qui nous fait tenir pour le moment et qui, je l'espère, va s'atténuer le temps passant, Elliot grandissant et les progrès arrivant de plus en plus. Tu vois, c'est la manière dont j'ai réussi à faire face à ça pour le moment. Les crises, il y en a, il y en aura. Je les accepte, en fait. Je les accepte parce que je me dis que, en fait, si elles sont difficiles pour moi, elles le sont aussi pour lui. Donc, j'essaye de pas lui voler son atypisme. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que j'oublie que, ok, c'est difficile pour moi, mais en fait, de base, ça l'est pour lui, quoi. Et ça, c'est. Il y a un miroir entre Elliot et moi, il y a quelque chose d'assez fusionnel et c'est difficile de pas lui voler tout ça. Tu vois, je sais pas comment, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, d'arriver à le voir comme Elliot, mais avec son atypisme, mais sans faire de ça.
Sans que ça le résume.
Sans que ça le résume. Et sans m'approprier tout ça, faire que ce soit que ma vie à moi. L'autisme de mon fils, c'est pas ma vie, en fait. Tu vois, c'est sa vie. Et moi, je suis là pour l'accompagner. Mais ça, c'est... Je sais pas s'il faudrait des années de thérapie. Je devrais demander une prévention. Mais bon, au moins, tu vois, je me dis, j'en ai un peu conscience. Donc, c'est que...
Non, mais je pense que t'as... Enfin, je trouve ton positionnement très intéressant. Moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, t'es dans une situation dans laquelle vous, toi et votre foyer, vous trouvez un certain équilibre et qui visiblement porte ses fruits dans votre foyer et dans l'équilibre que vous recherchez. J'ai beaucoup aimé le fait que tu expliques quand même, que tu exprimes que là ça marche et puis peut-être que ça marchera pas et puis peut-être qu'il faudra changer. Et ça, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, autisme ou pas autisme, de toute façon,
bien sûr.
C'est la vie, quoi. On fait des choses, on s'adapte en permanence. J'ai presque l'impression que c'est ça, être parent, apprendre à s'adapter en permanence.
Clairement.
Bien sûr, avec des difficultés qui sont clairement différentes par rapport à la situation de l'autisme, mais voilà. Et finalement, je trouve ça bien et intéressant, quand je t'écoute parler, de retrouver les mêmes éléments d'une parentalité presque banale.
Oui.
Alors qu'elle ne l'est pas, tu vois.
C'est comme un petit sapin de Noël, sauf que nous, on est quelques boules en plus sur le nôtre, tu vois. Et tout clignote pas en même temps partout.
Donc, c'est ça. Donc, non, c'est... Je trouvais ça très, très intéressant. Si tu devais... Alors, tu parles de ton mari et de vos situations différentes. Quand vous en parlez entre vous de cette situation vis-à-vis d'Eliott, vis-à-vis de votre famille, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à trouver des chemins communs? Est-ce que ça peut être plus compliqué de se comprendre?
On a un chemin commun, c'est que on s'interdira rien avec Eliott. Eliott, notre rôle aujourd'hui, on est d'accord là-dessus, c'est de l'aider à vivre dans ce monde. Par la force des choses, il va vivre dans ce monde au milieu des neurotypiques, et c'est comme ça. Donc il faut qu'on lui donne les clés pour exister en tant que lui, Elliot, mais aussi des clés qu'il n'a pas pour s'adapter à ce monde qui n'est pas semblable au sien. Donc là-dessus, on est 100% d'accord. Donc on se refuse rien. Le resto, on pourrait l'éviter parce que clairement, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais on le fait. Partir en voyage, on pourrait l'éviter, mais on le fait. Tenter des nouvelles choses, on le fait. On le fait, on choisit les bons moments, on choisit les bons contextes, on prépare pour que ça se passe bien, parce que du coup, une nouveauté réussie, pour Elliot, c'est vraiment un succès. Il est content d'avoir fait une nouvelle chose, donc il faut qu'il y trouve du plaisir. Et on, voilà, ça, c'est un chemin qu'on a en commun et qui, pour nous, est la base de notre éducation, de notre famille atypique. C'est, on fera tout pareil. Et seulement, la méthode sera peut-être un peu différente, mais on fera pareil parce que c'est comme ça qu'on aidera le mieux Elliot et aussi Sacha. Voilà, après, c'est pas toujours évident nos discussions et nos échanges parce que par la force des choses, j'ai un train d'avance. Comme je te disais, j'ai un train d'avance parce que je suis beaucoup plus avec les enfants. Donc, du coup, par rapport à Elliot, j'identifie plus facilement justement les petites choses qui font dégoupiller. Je suis plus forte pour anticiper les choses et que ça, dans les situations de fatigue et de stress, ça peut vite laisser place à des reproches qui ne sont pas justes, en fait. Mais le tout, c'est de se le dire, tu vois. Ça serait trop facile pour moi de dire, mais t'as pas su faire. Ben oui, mais est-ce que moi, j'ai donné les clés à mon mari pour y arriver, en fait ? Parce que pour moi, c'est tellement évident. Sauf que lui, il est dans le même train, sauf qu'il est quelques wagons derrière. Et c'est pas parce qu'il a pas voulu aller au même rythme, c'est pas pareil. Donc du coup, c'est important, tout comme la manière dont on se remet en question pour nos enfants, de se le faire aussi au sein du couple. Ça me semble essentiel de savoir. On revient toujours à l'empathie, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire que lui, ça l'amuse pas non plus de pas pouvoir être plus au contact de ses enfants, de pas pouvoir être aussi à la pointe que moi sur certains détails, tu vois, avec Elliot, ça ne l'amuse pas. Mais l'idée, c'est qu'on est un couple et qu'on se soutient et qu'on s'aide. Donc, il faut faire un pas l'un vers l'autre. Mais ça, c'est pareil, il a fallu un cheminement parce qu'on est tombé dans les travers du reproche qui n'avait aucun sens. On est tombé là-dedans, mais on s'en est sorti en discutant, en comprenant chacun nos erreurs.
Je me demande si y a deux choses que je retiens dans ce que tu dis. C'est encore une fois le parallèle avec une parentalité tout à fait typique. Parce que moi, concrètement, tu vois, dans mon couple, je passe plus de temps avec ma fille que ma compagne. J'ai cette incroyable chance. Et j'ai une réactivité et j'ai une compétence, si tu veux, sur l'observation de ma fille et de ce qu'elle veut exprimer, qui est très pointue. Donc, en effet, sur certaines situations que ma compagne rencontre moins souvent, je suis plus apte à réagir de manière plus rapide et plus efficace. Mais donc je me demande, tu vois, si finalement atypisme, tu vois, ce côté-là de compétence en fait sur un sujet, ouais, atypisme ou pas, c'est un sujet qu'on retrouve. Et par rapport à ce que tu dis, par rapport à, tu vois, tu évoques ce moment où ça passe. Voilà, là on est bien, mais ça n'a pas été facile. Je me demande si ce passage, tu vois, de trouble et de trouble intense, c'est pas tout simplement une étape obligatoire, se dire que voilà, on est dans la tempête à un moment, tu vois, quand vous ne saviez pas ce qui se passait avec Elliot ou quand ça s'est produit et que vous ne saviez pas comment réagir, on est dans la tempête et ben, il faut peut-être accepter aussi que la tempête soit là, qu'on se la prenne en pleine face et qu'on va réussir à la traverser, même si ben, y a des écueils des fois et que oui, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi.
Ouais, mais tu sais, c'est, je pense que c'est la même chose que les étapes, l'acceptation d'un diagnostic ou d'une maladie, c'est les mêmes étapes que l'acceptation d'un deuil, parce qu'en fait, tu fais le deuil de quelque chose que tu avais envisagé et qui sera jamais ce que tu avais envisagé. Donc du coup, tu passes par les mêmes étapes, la colère, le déni, tu vois. Et du coup, ce que je décris là depuis tout à l'heure, c'est ça, c'est ce qu'on a traversé. Et il y aura fallu au moins une bonne année. En plus, bonne année avec le confinement, la totale, je veux dire que ça a été vraiment le chaos. Des fois, je me dis, c'est ce que je dis à mon mari, je dis, on a dit pour le meilleur et pour le pire, mais en fait, le pire, il est derrière nous. Donc, maintenant, il ne reste que le meilleur. On a traversé tout ça et je suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de familles pour qui c'est compliqué et qui, malgré tous les efforts, voilà, n'arrivent pas à passer cette tempête ensemble. Et nous, on a réussi, on en ressort plus fort et plus soudé. Donc ça, c'est une chance, mais ça n'a pas été facile et ça ne le sera pas encore par la suite. Et je suis certaine qu'on aura, là pour le moment, on est dans le calme de la tempête, je suis certaine qu'il y aura de nouvelles vagues parce qu'Eliot va grandir, donc on aura d'autres combats. Et Sacha aussi va grandir, donc il aura d'autres questionnements, d'autres manières de répondre parce que Sacha, lui, dans la... quand il n'est pas content, il réagit de manière très, très intense physiquement et dans ses mots. Donc, je me dis qu'en grandissant, ça ne va pas être tendre non plus. Donc, voilà, pour le moment, on est dans la petite barque et ça va à peu près. Il y a un petit peu de vagues, mais en même temps, il y a des vagues dans toutes les familles. Et puis, mais on n'attend pas la prochaine comme ça, tu sais. Je dis, bah, elle viendra. On ne l'attend pas là avec nos gilets de sauvetage, en ayant peur, en étant terrorisée. C'est la vie. Ainsi va la vie. La vie, elle sera comme ça, et elle sera comme elle devra être, et puis elle sera belle, et puis voilà, on essaye d'être optimiste.
Mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce sujet-là. Et puis, moi, dans le cadre professionnel, j'ai eu l'occasion d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui avaient des enfants neuroatypiques, enfin autistes. Et pour le coup, mais donc, qui étaient sur des chemins où quand on parlait de ces chemins de vie, donc là, on se parle d'enfants qui ont grandi, hein, qui ont 18, 20 ans. Et avec des étapes importantes comme ça, le passage de l'adolescence qui peut être aussi compliqué, apparemment, et aussi bah, certains profils où il y a eu ce qu'ils ont eux-mêmes appelé des grands succès. Et j'ai en mémoire aussi un profil où, bah, à la majorité, il y avait une pensée d'autonomie de l'enfant qui s'était développée, et puis en fait, c'est pas arrivé. Et là, encore une fois, gros changement, grosse tempête. Difficile. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut en effet prendre les choses comme elles viennent et éviter peut-être d'idéaliser des situations. Ça peut être
Tu peux avoir des attentes, on en a des
bien
attentes.
sûr.
J'ai des souhaits, j'espère des choses, mais alors j'essaye de pas trop les espérer sur du long terme, parce que dans 10 ans, j'en sais moi, dans 10 ans, enfin voilà. Et on se réjouit des petites choses, en fait. On se réjouit. Elliot, il y a un an, il parlait pas du tout. Aujourd'hui, Elliot, bonjour maman, je veux un chocolat s'il te plaît. Enfin, voilà, tu vois, c'est des petites choses qui sont super. Bien sûr que j'aimerais pouvoir discuter avec lui parce que Elliot parle, mais son vocabulaire et son langage, il est fonctionnel. Il est là pour répondre à une attente ou à une demande. C'est déjà super. Et c'est sûr que j'aimerais bien. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Et non, tu vois, hier encore dans la voiture, parce qu'en ce moment je le travaille, parce qu'il faut travailler cette partie-là justement. C'est vraiment du non-stop. Je lui dis, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? Il me répond, à la cantine. Ben oui, tu as mangé à la cantine, mais qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? Je lui dis, avec quoi dans ton assiette? Et il me dit, dans mon assiette à la cantine. Oui, et dans ton assiette, il y avait quoi? Alors, il y avait le verre, le couteau, la fourchette. J'ai pas réussi à savoir ce qu'il y avait. Et tu vois, ça, c'est des choses que j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir avoir ces petits échanges-là avec lui. Pour le moment, je ne les ai pas. Mais il y a un an, j'avais pas de mots. J'avais rien. Et maintenant, j'ai quand même des petites choses. Et je t'aime, maman. Et puis surtout, et c'est là l'essentiel, il est heureux. Il est hyper heureux. Et en plus, et tu vois, je vais te le dire, il le dit dans cet ordre-là. Enfin, je lui dis, mais comment tu vas? Parce qu'on lit le livre des émotions. Il l'aime beaucoup. Donc en ce moment, on le fait 15 fois par jour. Et il me dit, Elliot, il est heureux, il est joyeux, il est content. Toujours dans cet ordre-là. Je trouve ça marrant. Et voilà, et c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui dégage. Moi, je regarde un petit garçon, je le regarde, il est heureux d'aller à l'école, il est heureux de rentrer à la maison, il est heureux d'être avec nous, il est heureux de jouer avec nous, il est heureux d'être avec son frère. Il est heureux, il est joyeux, il est content. Mais c'est tout ce que je veux pour lui, en fait, hein. Et comme n'importe quel parent pour ses enfants.
Tout à fait. Mais merci en tout cas d'avoir précisé ça. Je pense que c'est un beau passage important. J'ai une dernière question pour toi, Daisy. J'aimerais savoir ce que tu te dirais là à toi aujourd'hui si tu pouvais te parler à toi il y a un an et demi, un peu avant quand tu étais justement dans la tempête et un peu avant que tout ça s'éclaircisse.
Alors, c'est drôle parce que c'est une chouette question qui me permet de. C'est drôle parce que le mot qui me vient tout de suite, c'est ça va aller. Et ce ça va aller, il est symbolique parce que c'est le livre que je suis en train d'écrire. C'est un roman graphique qui parle justement de l'autisme et de tout ce qu'on a traversé. Et le titre, eh bien, c'est ça va aller. Et c'est clairement ce que je me dirais à moi d'il y a un an, d'il y a 2 ans. Et c'est ce que j'espère que mon moi de 10 ans me dirait à moi maintenant. Tu vois, ça va aller.
Bah, comme dirait Patrick, on va se donner rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, voilà, place des
Et
grands-pères.
puis,
Mais ça va aller.
et non, mais je pense que c'est en effet quelque chose de, c'est en effet une phrase très intéressante. Il me tarde de découvrir l'intégralité de ce travail sur le sujet. Et j'espère en tout cas que ça pourra aider des parents et aider des parents concernés directement ou pas. Moi, je t'avoue que je trouve ça très très intéressant de pouvoir se projeter là-dessus. Donc, merci beaucoup, Daisy.
Merci à toi.
Je te dis bonne journée.
Oui, salut, merci.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.